Rabelle.
Je vous lisais dans les titres à l'occasion de l'anniversaire de l'accord belgo-marocain de main-d'œuvre du 17 février 1964. On revient donc sur une page majeure de l'histoire partagée entre la Belgique et le Maroc. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Hassan Bousseta, professeur associé à l'Université de Liège, chercheur au FNRS et auteur du livre « Entre deux rives ». Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors je montre tout d'abord ce gros ouvrage. Je change juste le temps de changer de caméra. Voilà. « Entre deux rives ». C'est un beau bébé.
C'est un très beau bébé, voilà. Pèse 2 kilos. Ouais,
on en parlera dans quelques instants. On va revenir bien sûr sur cet accord de 1964 qui s'inscrit, disons, dans un contexte économique bien particulier. C'est important de rappeler tout cela et de dire qu'est-ce que ça représentait à l'époque pour la Belgique et pour le Maroc.
Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. J'étais venu dans ce même studio, on avait eu l'occasion d'échanger il y a 2 ans, à l'occasion des 60 ans de l'accord belgo-marocain de 1964. Et lors de ces commémorations, vous savez, une commémoration, c'est pas simplement regarder dans le rétroviseur, c'est aussi se projeter dans le futur, essayer de donner un sens, une lecture au travail commémoratif, au travail de mémoire. Et à l'occasion des 60 ans, j'ai essayé de mener une réflexion qui allait au-delà de la simple immigration. Et vous allez voir que ce livre, il va bien au-delà de l'histoire de l'immigration marocaine, puisqu'il explore l'histoire des relations entre le Nord, l'Afrique du Nord, et l'espace qu'occupe le Maroc, et le Nord-Ouest de l'Europe, c'est-à-dire l'espace qu'occupe la Belgique d'aujourd'hui. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a eu des contacts historiques ? Parce qu'on est apparu en 1964 comme si on était sorti un peu de nulle part. J'ai le souvenir à une certaine époque de Tarat Ben Jelloun qui expliquait que les générations de l'immigration maghrébine en France sont des générations spontanées de la rupture. Alors ce qu'il voulait dire, je le comprends bien, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de perte de repères historiques par rapport aux parents et qu'il y avait quelque chose de spontané. Mais en réalité, quand on fait l'exercice de s'interroger sur l'histoire des relations, on s'aperçoit qu'elles ont été très riches au cours de l'histoire et que le premier lieu d'exclusion symbolique, quelque part, c'est de nous exclure du récit national. Et lorsqu'on fait cette histoire, j'ai essayé de travailler à partir d'une méthodologie qui est les histoires parallèles. C'est de narrer, de raconter l'histoire du Maroc et l'histoire de la Belgique et tous les moments de contact.
Justement, est-ce qu'on peut établir des parallèles entre les transformations sociales qu'a connues la Belgique et celles qu'a traversé le Maroc dans les années 60 ?
Alors, il y a des choses qui se rapprochent, mais il y a beaucoup de divergences aussi. Le Maroc est un vieil État millénaire. La Belgique est une construction du 19e siècle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un espace structuré dans ce qu'est aujourd'hui la Belgique. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui pour dire qu'en fait, l'espace de la Belgique, il est né avec les conquêtes des ducs de Bourgogne, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les communications qui ont eu lieu à travers des marchands, à travers des intellectuels, à travers des militaires. Il y a parfois eu des moments de confrontation. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'aller beaucoup plus loin, et c'est d'ouvrir des chapitres qui sont méconnus, ou des chapitres qui sont sur lesquels il y a de la littérature, mais que l'opinion publique ne connaît pas. Et par exemple, si on regarde une période qui nous marque très directement, c'est le 19e siècle. Il y a peu de Belges et peu de Marocains qui savent que Léopold II, le grand souverain belge de la fin du 19e siècle, a passé plus de 40 années de sa vie à essayer d'obtenir des droits sur le Maroc. Très peu connu, et quand on l'explique aujourd'hui, ça paraît presque surprenant. Quand je l'explique dans les conférences, les gens me disent « mais enfin, qu'est-ce qu'il raconte, Bousseta ?» Or, c'est la réalité. Léopold II, avant d'être souverain, avant d'être roi des Belges, il est d'abord duc de Brabant, et un autre 17 février, le 17 février 1860, il va au Sénat expliquer que la Belgique doit trouver des marchés pour sa production industrielle, parce que la Belgique est un pays riche, et un des premiers pays qu'il va explorer de manière systématique, c'est le Maroc. Et Léopold II va connaître vraiment une ambition contrariée au Maroc, puisqu'il ne parviendra jamais à son objectif. Mais il arrive au Maroc en 1862, donc il va au Sénat plaider auprès des politiciens pour lui donner les moyens d'explorer le monde. Et il va se retrouver au Maroc en 1862, 23 ans avant la conférence de Berlin.
Oui, d'accord.
Donc Léopold II est attaché au Congo, mais il est attaché au Maroc bien plus tôt. Qui le sait ? Qui connaît cette histoire ?
Oui, absolument. Alors on va revenir, professeur, si vous voulez bien, cet accord de 1964. Avec le recul, comment vous analysez, disons, un petit peu l'évolution de cette relation bilatérale Maroc-Belgique, du travail temporaire imaginé à l'époque à l'installation durable finalement des familles?
Mais cette relation, elle suit l'évolution des hommes et des femmes qui font cette immigration, qui sont la matière humaine qui lie les deux sociétés. Et on voit, lors des 60 ans, j'ai dit, on n'imagine pas le chemin parcouru par l'immigration marocaine, un chemin d'intégration dans tous les secteurs de la société. Alors, évidemment, avec beaucoup de fragilité sur le plan social, mais tout de même, dans le monde scientifique, dans le monde professionnel, dans le monde des entreprises, dans le monde sportif, dans le monde culturel, artistique, il y a des réussites tout à fait spectaculaires et tout à fait exemplaires. Et l'évolution des relations belgo-marocaines, elle suit un peu ce rythme-là, ce rythme de l'évolution des populations. Et puis, bon, alors il y a évidemment, on est dans une phase où c'est une phase de grand questionnement au niveau de l'Europe, et on est dans une phase où il y a une émergence de ce qu'on pourrait appeler le Sud global, qui fait qu'aujourd'hui, les dynamiques qui touchent le Maroc sont des dynamiques qui sont des dynamiques de la mondialisation et qui le transforment très profondément. Et ce que je ressens, parfois un peu avec un peu de regret, c'est que le Maroc n'a plus du tout les yeux tournés uniquement vers l'Europe. Le Maroc a les yeux tournés vers le reste du monde, et aujourd'hui, ce n'est plus sa grande préoccupation. Nous avons eu des politiques d'immigration qui ont beaucoup humilié les populations du Sud, les tracasseries de visa, des difficultés à obtenir des autorisations pour que des étudiants viennent se former en Belgique et qu'on puisse entretenir à travers les étudiants des relations solides entre les sociétés. Tout ça devient difficile, et aujourd'hui on voit qu'on est dans des dynamiques qui nous mettent parfois un peu en porte-à-faux.
Alors justement, pour revenir sur les relations Maroc-Belgique plus de 60 ans après, est-ce que finalement ces deux sociétés se connaissent réellement ?
Peut-être pas assez. C'est le plaidoyer de ce livre, c'est de dire, il y a un message fondamental de mon livre, c'est de considérer qu'il y a une construction qui voudrait que nous sommes des étrangers les uns aux autres. Or, l'histoire nous montre que nous ne sommes pas des étrangers les uns aux autres, que nous avons eu des contacts à travers l'histoire. Il y a des anecdotes, j'essaye dans ce livre de montrer aussi des anecdotes. Par exemple, qui sait aujourd'hui que, par exemple, alors bon, je n'en fais ni un motif de célébration, mais que la ville de Ceuta, qui est espagnole aujourd'hui, a été sauvée par des gardes wallonnes, par des gens originaires de ces régions, lors du blocus de Ceuta et lors de la tentative de reconquête par Moulay Ismaïl. Donc, ce sont des tas d'histoires qui montrent que il y a eu des échanges scientifiques très importants. Les chiffres arabes qui sont arrivés vers le nord-ouest de l'Europe, ils sont arrivés par des gens qui sont passés par le Qadawiyyin à Fès. Qui sait ça aujourd'hui dans notre culture ? Parce qu'on a construit une culture en opposition. Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'espace de l'Afrique du Nord et du nord-ouest de l'Europe a toujours été un espace de circulation.
Justement, professeur, comment dépasser ces lectures parfois un petit peu, je dirais, stéréotypées ou passionnelles de cette histoire commune ?
Et je crois qu'il faut la réinvestir. D'abord, il faut la connaître, parce qu'on ne la connaît pas beaucoup. On pense que 64, c'est le début de quelque chose. Mais en réalité, il y a des choses bien avant, des choses qui sont bien plus structurantes avant. Alors, 64, ça a été un moment important, parce qu'il y a une dimension massive de l'immigration. Donc, il y a une population marocaine en plusieurs centaines de milliers de personne qui est aujourd'hui la plus grande population d'origine étrangère en Belgique. Donc il y a cette réalité qui est significative, mais on ne peut pas penser cette présence sans penser que la société a un récit national, elle se raconte une histoire sur ce qu'elle est. Et on va bientôt célébrer le bicentenaire de la Belgique. Eh bien, c'est l'occasion aussi de poser toute une série de questions. La Belgique n'a pas été un espace isolé de la Méditerranée. Elle a été un espace connecté à la Méditerranée. Et cette histoire méditerranéenne de la Belgique, c'est aussi notre devoir de la faire connaître et de la restituer.
Alors, on voit tout cela du côté d'une paire de lunettes belges. Et du côté marocain, quel regard est porté aujourd'hui sur cette émigration vers la Belgique ?
Je crois qu'il y a plusieurs, il n'y a pas un seul regard. Oui. C'est-à-dire qu'on a vu, notamment parce que le sport a joué un rôle très très fort dans la dynamique de participation de la diaspora aux grands résultats sportifs en matière de football, c'est particulièrement évident. Et donc il y a beaucoup d'espoir sur ce que la diaspora peut apporter au pays, peut apporter au développement. Il n'y a pas un seul regard, il y a aussi des tensions. Il y a aussi des tensions, des moments de friction. Mais disons que aujourd'hui, Le Maroc est un pays qui est constitué, qui est façonné par des littératures qui sont produites par ces diasporas et qui circulent entre les deux pays. Et donc, je pense que la diaspora joue un rôle très structurant.
Mmh. Un mot des jeunes. Pensez-vous que les jeunes issus de cette immigration peuvent devenir, ils ont un véritable pont entre les deux sociétés, malgré les temps compliqués et difficiles ici en ce moment?
Oui, alors il y a jeunes et jeunes, hein, donc il n'y a pas une catégorie de la jeunesse belgo-marocaine. Hein, on sait qu'il y a des grandes difficultés, des grandes souffrances. On voit qu'il y a des très grandes vulnérabilités, mais la jeunesse, c'est aussi celle qui crée, c'est aussi celle. Donc il y a une diversité. Moi, je pense qu'on ne peut plus réduire l'immigration marocaine à une seule image, une seule représentation. Elle est très diversifiée. Il y a des enjeux très forts de cohésion sociale. Mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui circulent entre les deux rives, qui communiquent avec la jeunesse du Maroc et de toute la Méditerranée en réalité.
Mmh. Alors on va marquer une courte pause, professeur, et on se retrouve juste après pour parler notamment de la contribution au débat mémoriel en Belgique et au Maroc. À tout de suite.
Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on retrouve notre invité Hassan Bousseta, professeur associé à l'Université de Liège, chercheur au FNRS et auteur du livre « Entre les deux rives ». On enchaîne notre entretien, professeur, pour parler de cette contribution au débat mémoriel chez nous et aussi au Maroc. Alors, la mémoire de l'immigration marocaine, est-ce qu'elle est suffisamment d'abord reconnue dans l'espace public belge ?
Mais moi, je ne veux pas dire qu'on peut faire se dire que c'est une satisfaction totale, mais tout de même, il y a un chemin que moi je voudrais souligner. Lorsqu'on a commencé en 2004 à parler de l'histoire de l'immigration, c'était un sujet qui était encore très mal connu. Et l'objectif en 2004 pour les 40 ans, c'était d'abord de dire que l'histoire de l'immigration fait partie de l'histoire sociale de Belgique et que l'histoire sociale doit être écrite aussi, l'histoire sociale de l'immigration doit être écrite au même titre que l'histoire politique. Mon sentiment, c'est qu'on a réussi dans une certaine mesure à faire rentrer cette idée qu'aujourd'hui l'histoire est beaucoup mieux connue qu'elle ne l'était. Alors il y a eu aussi des travaux qu'on a menés avec des collègues de l'Université libre de Bruxelles, etc. Et il y a une thèse qui va sortir bientôt à l'Université Saint-Louis sur l'histoire des femmes de l'immigration marocaine. Donc il y a une meilleure connaissance que celle qu'on avait il y a 20 ans. Bien entendu, il reste encore des choses à découvrir, mais d'une certaine manière, on ne peut pas dire aujourd'hui que le degré de connaissance de la société belge sur ces questions-là est aussi problématique qu'il ne pouvait l'être il y a 20, 30 ans ou 40 ans. Donc on a fait des pas en avant qui sont significatifs. Mais il y a encore des choses à faire, et notamment en matière d'enseignement, parce que les questions d'histoire de la diversité dans l'enseignement obligatoire restent quand même sous-représentées. Donc voilà, c'est un bilan en demi-teinte, mais dans lequel il faut quand même souligner les progrès qui ont été faits en matière de connaissances, en matière de reconnaissance aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour reconnaître une population à sa juste place, il faut aussi commencer par bien la connaître.
Oui, et comment éviter que ces débats mémoriels ne se polarise ou ne se politise, disons, excessivement?
Alors, moi, j'ai tendance à dire que dans les débats mémoriels, il faut éviter le trop-plein et le vide. C'est-à-dire le vide qui finit par autoriser les fantasmes de croire dans des choses qui sont pas toujours fondées, ou l'excès mémoriel qui finit par empêcher de bouger, qui finit par être encombrant. Donc, il y a un chemin, il y a une voie entre les deux, et je pense que chacun la vie un peu à sa manière. Mais voilà, je crois que les débats mémoriels, ils sont dans une société comme la Belgique, qui est une société qui est en pleine discussion permanente sur son identité. Qu'est-ce que c'est l'identité belge? Qu'est-ce que c'est l'identité régionale? Qu'est-ce que c'est être flamand, être bruxellois? C'est une particularité de notre pays de ne pas avoir un récit qui est figé et qui est fermé. C'est un récit qui reste ouvert. Le bicentenaire de la Belgique qui aura lieu en 2030 sera une occasion de dire, mais voilà, vous savez, le livre, il y a une ambiguïté dans le titre qui est une ambiguïté tout à fait assumée. Mmh. J'ai écrit le livre « Entre deux rives ». Alors, il est évident que la Belgique n'a pas de façade méditerranéenne, mais la Belgique a une façade méditerranéenne symbolique à travers l'immigration méditerranéenne, et nous sommes, quelque part, le front méditerranéen de ce pays. Et c'est celui, et c'est la raison pour laquelle il est important de rappeler ce qu'ont été les connexions entre ces régions. Vous savez que les commerçants flamands, les grands commerçants flamands qui ont été au développement du capitalisme au Moyen-Âge, ménages ont été connectés avec le Maroc. Il y avait, on a des témoignages de commerçants flamands avec des dépôts commerciaux au Maroc. On a des savants de l'université de Louvain qui vont se former à Al-Qarawiyyin à Fès. Donc on a des tas de choses qui forment un passé commun et qu'il faut réhabiliter, entretenir et expliquer. Et j'ai le sentiment, après avoir fait ce livre, j'imaginais pas qu'il y avait autant de matière quand j'ai commencé, mais je pense que je n'ai encore touché qu'une petite partie des choses et qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Alors justement, une dernière question à propos de ces tensions mémorielles, est-ce que justement, le travail académique peut contribuer à apaiser un petit peu ces tensions?
Mais je dirais que le travail mémoriel peut résoudre les tensions identitaires. Parce qu'il y a des tensions identitaires, le travail mémoriel, il ouvre des perspectives, il permet... C'est une manière d'agencer, quelque part, une lecture de l'histoire pour contribuer à façonner une identité. Et ce message que j'essaye de porter à travers ce livre, c'est un message qui s'adresse et à la Belgique et au Maroc. Je pense que le Maroc doit aussi se penser comme étant connecté au reste du monde. Et le Maroc, qui est aujourd'hui géopolitiquement dans une situation particulière, à la frontière de l'Europe, il l'a toujours été, mais qui est dans une situation où il est appelé par des alliances nouvelles dans le reste du monde, il a aussi un héritage de connexion avec l'Europe, avec le reste du monde. Et donc il y a une sorte de, je crois, une nécessité aujourd'hui pour, je sais que ça se fait, que la discussion a lieu au Maroc, de produire une histoire mondiale du Maroc, c'est-à-dire le Maroc, ce n'est pas une société fermée sur elle-même, c'est une société qui a toujours bougé, respiré, et c'est vrai aussi pour notre société. Et envisager l'histoire, la mémoire, à travers des angles multiples, à travers les deux côtés, ou plusieurs côtés, à travers une histoire mondiale ou des histoires parallèles, je pense que ça permet de faire respirer, surtout dans un monde où, aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle réalité pour l'Europe. C'est que l'Europe, qui a été, depuis la Renaissance, le centre du monde, est aujourd'hui en train de découvrir qu'elle est une périphérie parmi d'autres. Et ça renvoie évidemment à la nécessité d'avoir un rapport avec le reste du monde qui est un rapport beaucoup plus équilibré, beaucoup plus égalitaire. Parce que ce que je montre aussi dans ce livre, c'est que malheureusement, nous sortons d'un héritage qui est un héritage très difficile, qui est celui du 19e siècle et celui du colonialisme européen. Et donc, on doit progressivement sortir de cet héritage. Donc, il faut avancer vers des pensées. Il y a beaucoup de réflexions sur le décolonialisme, sur le postcolonialisme. Oui. Et aujourd'hui, je crois que c'est une invitation pour nos sociétés de se dire, dans le monde complexe dans lequel on rentre aujourd'hui, il faut être, je crois, humble et dans une relation plus égalitaire.
Alors, on va parler un peu dans le détail de votre livre « Entre deux rives ». Alors, que nous apprend cet ouvrage? Je rappelle qu'il fait à peu près 265 pages sur la manière de raconter cette histoire commune et aussi de nous parler un peu de ces photos. On parlait tout à l'heure en off qu'il y a pas mal de choses inédites.
Oui, il y a des choses. Bon, par exemple, moi, quand on a lancé en 2004 avec toute une série de copains et d'amis les commémorations des 60 ans, on pensait que l'accord de 64 était le seul qui existait. En fait, il y a eu, par exemple, là, le Palais Royal belge m'a donné accès à leurs archives privées. On voit, par exemple, que le prince héritier Moulay El Hassen vient à Bruxelles à l'exposition universelle de Bruxelles. Et à cette occasion, il y a un traité d'amitié qui est signé entre les deux pays que personne n'a jamais pu retrouver. Moi-même, je n'en ai pas retrouvé la trace aux affaires étrangères. J'ai creusé toutes les archives de l'État, les archives des affaires étrangères. Je n'ai pas retrouvé la trace de ce texte qui est pourtant mentionné dans certains documents. Si on remonte plus loin, il y a un traité entre le Maroc et le Maroc colonial, c'est-à-dire l'administration française et la Belgique, sur les accidents du travail de 1930. Et puis, plus important, au 19e siècle, en 1862, il y a un accord de libre navigation qui est un accord qui suit un accord qui avait été octroyé par le Maroc à la Grande-Bretagne et qui permet aux commerçants belges de maintenir leur position au Maroc. Donc, il y a eu beaucoup d'autres choses par le passé. Tout ça est constitutif de notre histoire. Donc, il y a un travail à faire sur l'historiographie de la mettre en évidence, et puis à partir de là, il y a aussi tout ce qu'on peut en faire dans la vie civique, comment on peut les réinterpréter, et c'est un peu ça l'objectif de ce livre.
– Alors on revient en 2026, professeur, est-ce que d'après vous il faut aller vers des commémorations plus institutionnelles ou plutôt privilégier, disons je dirais, des initiatives citoyennes, locales ?
Moi, je suis un universitaire, donc j'essaye de faire des lectures. Après, ce sont moi, je suis aussi un acteur engagé, donc j'ai aussi essayé, par, à ma façon, de faire en sorte que ce soit réapproprié, qu'il y ait une appropriation de cela. On rentre évidemment, donc toute l'Europe est entrée aujourd'hui dans une période un peu sombre, où on voit que les mouvements d'extrême droite progressent à une vitesse folle, mais ces mouvements d'extrême droite, ils progressent sur un récit qui est exactement symétrique à celui que j'essaie de proposer, c'est-à-dire qui fonctionne sur un récit fantasmé d'une unité qui serait sortie quelque part de l'histoire, comme si on était sorti comme des nations européennes chrétiennes, judéo-chrétiennes, hein, ces fameuses tentatives d'extérioriser la présence musulmane, alors que la présence musulmane, elle a été depuis les conquêtes des armées arabes du sud de la péninsule ibérique, elles ont été permanentes, et les échanges aussi, hein, donc je raconte par exemple les contacts entre Charlemagne et l'empereur abbasside Harun al-Rashid, ce sont des moments d'histoire qui font aussi, qui sont l'histoire longue de notre courte présence depuis 1964. Mais elles sont imbriquées les unes dans les autres et on peut aussi les réinterpréter pour sortir de cette idée qu'il y a une sorte d'opposition dos à dos entre la Méditerranée musulmane et l'Europe qui serait judéo-chrétienne, qui est une construction très, très problématique, très fallacieuse en réalité. Et donc, c'est en cherchant des points d'appui qui sont autre chose que le discours nationaliste qu'on voit revenir aujourd'hui, eh bien, on se donne des possibilités de construire autre chose comme société aussi. Mmh. Et c'est un peu l'espoir que j'ai. Mais donc, moi, mon espoir, c'est que ce livre puisse faire un peu ce qu'on a fait en 2004, c'est-à-dire de servir d'outil à des enseignants, à des élèves, à des chercheurs, pour se dire, mais attention, notre histoire, elle ne commence pas un beau matin du 17 février 1964 entre deux ministres qui signent un accord.
C'est ça.
Les contacts entre nos sociétés sont beaucoup plus anciens et ils datent d'époque. Alors, je commence le livre par la préhistoire, hein, ce qui était un sujet de discussion avec l'éditrice, parce que vous avez vu qu'il y a des découvertes récentes, hein, il y a eu 2-3 découvertes récentes qui mettent le Maroc au cœur de la préhistoire, avec les premiers Homo sapiens qui sont découverts sur le territoire de l'actuel Maroc. Mmh. Et ces premiers hommes étaient en contact avec d'autres hommes qui sont les Néandertaliens qui vivaient dans nos régions. Et ce que les découvertes récentes, le prix Nobel de médecine de 2022 a montré, c'est que non seulement ces hommes se sont rencontrés, mais ils se sont hybridés, c'est-à-dire que les Néandertaliens qui vivaient dans nos régions et les Homo sapiens qui sont nés au Maroc, d'après nos connaissances actuelles, se sont rencontrés, et ce qui correspond, quelque part, c'est un petit peu tirer l'argument un peu loin, mais qui correspond à l'idée que ce couloir atlantique, euro-africain, a toujours été un couloir de circulation.
On pourrait en discuter encore pendant des heures, mais une petite question avant de nous quitter, professeur, finalement, quel message vous souhaiteriez adresser aux deux sociétés à l'occasion, vous l'avez bien souligné, d'un anniversaire symbolique, parce que ça va beaucoup plus loin.
Le message, c'est, apprenons à reconnaître que nous connaissons, et sur cette connaissance et cette reconnaissance mutuelle, construisons des choses qui servent nos deux pays. On entre dans une période de l'histoire qui est une période difficile, mais c'est, vous savez, c'est une vieille sagesse orientale qui veut que c'est au moment où la nuit est la plus noire que l'aube apparaît. Et moi, je travaille au retour de l'aube, d'une certaine manière.
Voilà, c'était donc la conclusion de Hassan Bousseta. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université de Liège, chercheur au FNRS et auteur du livre « Entre deux rives » que je montre ici à l'écran, un bel ouvrage de 265 pages, très bien illustré. Merci en tout cas, professeur, d'avoir partagé ce moment avec nous.
Avec plaisir.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.
Le Carrefour de l'Info sur Arabelle.
Et puis je vous rappelle que tout à l'heure à 15h30, nous serons en ligne en direct avec le Conseil des musulmans de Belgique, avec notre ami Rachid, pour connaître la date du début du mois de Ramadan. Le direct donc tout à l'heure à 15h30. Côté météo cet après-midi.